bonjour à tous et bienvenue sur Parole de plongeur, le podcast des passionnés de plongée. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour vous faire partager, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ainsi que vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment m'améliorer. Ça me fera super plaisir. Dans cet épisode, je reçois Sandrine Trévaux, ambassadrice d'Ocean Quest France, une association de préservation des coraux. Sandrine est une femme au parcours incroyable. Avant de devenir monitrice de plongée et d'ouvrir son propre centre de plongée à Toulon, elle a fait du parachutisme à haut niveau et enseigné également le parachutisme. Aujourd'hui, c'est de coraux dont elle va nous parler. Elle va nous expliquer les techniques employées pour reconstruire les coraux, voire même déplacer des récifs et comment chacun peut devenir un jardinier de l'océan. J'espère que vous ne serez pas trop dérangés par la mauvaise qualité de l'enregistrement. En temps de confinement, eh bien, j'essaye de faire comme je peux. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandrine, je te remercie grandement d'avoir accepté mon invitation. Je suis très très contente que tu sois là pour nous parler d'un sujet passionnant, la restauration des récifs de coraux. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et nous présenter Ocean Quest ?
Oui, je m'appelle Sandrine Trévaux, je suis monitrice de plongée et depuis 3 ans, je replante des coraux, tout simplement, dans mes périodes creuses, hors saison. J'ai une saison en métropole qui va de mars à octobre et ensuite j'ai quelques mois de libre pour profiter de ces moments pour faire du bénévolat. Et j'ai choisi comme association Ocean Quest, que j'ai découvert en Asie lors de recherches internet et que je suis allée rencontrer et me former.
Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal d'associations qui ont pour but de préserver les récifs coralliens, et tant mieux, parce que là je pense pas qu'on puisse parler de compétition, l'objectif est que l'océan soit peuplé de coraux en bonne santé, et plus il y a d'assos, plus il y a de visibilité pour cette cause, et chacun peut donc trouver chaussure à son pied. Donc toi, tu as choisi de t'engager pour Ocean Quest, mais j'ai vu qu'il existe d'autres associations telles que Coral Guardian, Coral Gardener, la fondation Coral Restoration. Certaines de ces associations ont des sites en français, d'autres non. Par contre, j'ai noté qu'Ocean Quest a une particularité. Est-ce que tu peux nous dire laquelle ?
Oui, tout d'abord, effectivement, comme tu dis si bien, il n'y a pas de compétition dans la conservation. On appelle ça la conservation au niveau international. La conservation, c'est tout ce qui concerne l'écologie et la préservation de la planète. Il n'y a pas de compétition puisqu'on a tous le même but, c'est montrer aux gens que c'est beau et leur faire aimer ce qu'on fait et leur faire aimer ce qui existe dans l'eau. Et comme disait Cousteau, on protège ce qu'on aime. Et donc, si les gens aiment les récifs coralliens, ils vont avoir envie de les protéger. On est quelques associations dans le monde, pas très nombreux en France. Je dirais qu'en France, on est à peu près les seuls, en tout cas sur ce créneau-là. T'as donné des noms, oui, il y a une des associations, deux associations qui sont françaises, mais qui sont à l'étranger, en Indonésie, pour Coral Guardian, Coral Gardner, ils sont à Tahiti, donc c'est pas l'étranger, c'est la France. Mais on n'est pas très nombreux sur ce secteur, mais par contre, on a tous le même but, donc du coup, c'est génial, parce que plus on en parle, plus il y a de monde qui est touché. Donc c'est ça le but. On n'est pas sur une entreprise, on est sur des associations, on est sur la restauration. Donc voilà. Alors nous, la grosse différence avec les autres associations, c'est qu'on fait de la restauration sur des supports naturels. C'est ça qui m'a plu, c'est que c'est facile, c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Parce que quand tu commences à travailler sur du support qui n'est pas naturel, il faut bâtir le support, donc ça a un coût. Il faut des sponsors pour ça. Il faut utiliser des ressources de la planète aussi pour construire ça. Et puis, ça revient aussi à mettre des choses dans l'eau qui sont pas forcément... qui n'ont pas grand-chose à y faire, même si c'est des supports et que c'est très bien aussi de pouvoir faire pousser du corail sur des supports parce qu'on en a besoin. Mais nous, on a réussi, enfin, en tout cas, le fondateur de Ocean Quest, Anwar Abdullah, qui est malaisien, a pu trouver, après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, il a passé 15 ans avant de trouver cette méthode, trouver une méthode naturelle. Et ça, c'est génial parce que c'est facile et voilà. Et on peut le faire partout.
Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment vous faites pour replanter du corail ?
Alors c'est simple, on récupère dans l'eau, sous l'eau, dans des récifs coralliens abîmés par les plongeurs ou par les snorkeleurs ou par les gens qui nagent et qui vont marcher sur les coraux. On récupère des petits morceaux cassés. Donc on ne travaille que sur du corail cassé. On ne va pas les prélever du corail dans des colonies qui sont vivantes. D'accord? On récupère du corail cassé, mais vivant. Parce que on remarque très facilement que sur les sites de plongée, en tout cas en Asie par exemple, on a des morceaux de coraux cassés tous les jours et qui sont vivants. Tant qu'ils n'ont pas, ils ont la tête dans le sable, donc ils vont mourir. Donc nous, on récupère, on rescue en fait, on sauve ces coraux, on les récupère. On les met dans des bacs d'eau, on les garde toujours dans l'eau et ensuite on ramasse des morceaux de corail mort, des gros morceaux, ce qu'on appelle du substrat, qui nous permettent de faire le support. Et on lie les deux, c'est-à-dire qu'on va coller le corail sur le support, toujours en étant dans des bacs d'eau, bien sûr. On le sort quoi, une seconde pour le coller et on le remet dans l'eau. Et ensuite, on remet tout ça dans l'eau pour faire pour les laisser pousser. Et on a aussi une petite un petit truc en plus, c'est qu'on rajoute au moment du collage, on rajoute un petit catalyseur maison qui est fait par Anoir et qui va donner un coup de feu au corail, qui va permettre de à la fois durcir la colle au moment où on le met et de la dissoudre au bout de quelques jours. En gros, au bout de 3 semaines, il n'y a plus de colle, il n'y a plus de catalyseur et on est sur du naturel total. C'est-à-dire que le corail, il aura refait son pied et il va de lui-même adhérer au support.
Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi il est important de préserver le corail ? Parce que, alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais moi, quand je vois une baleine se faire harponner ou un bébé phoque se faire dépecer, ça me touche plus et je pense que les gens, ça les touche plus qu'un coup de palme dans le corail.
Ouais, c'est clair, c'est sûr que c'est plus vendeur de dire on protège les baleines et les bébés phoques, mais on n'est pas sur une stratégie de vente, on est sur une stratégie de prise de conscience. Donc du coup, le corail, c'est la base des océans, c'est vieux, beaucoup plus vieux que n'importe quel autre être vivant. Donc du coup, c'est la base de départ, c'est ce qui va créer 90% de l'oxygène dans l'océan. On peut, si on veut faire un parallèle, c'est un peu la forêt amazonienne, quoi. Donc on dit la forêt amazonienne, il faut la protéger parce que ça donne de l'oxygène sur la terre, mais les coraux donnent l'oxygène dans la mer, qui va donner de l'oxygène sur la terre et qui vont pouvoir faire permettre de la subsistance de plein d'espèces. Donc c'est super important aussi. C'est moins visuel, mais une fois qu'on a les mains dedans, c'est très poignant aussi. C'est peut-être pas la même sensation qu'avoir un bébé phoque dans les bras, mais quand on a un bébé corail qu'on vient de planter, qu'on va le poser dans l'eau, franchement, il y a une émotion et tous les gens le vivent, quoi. C'est assez poignant et du coup, c'est là qu'on se rend compte que c'est de l'animal et qu'on est vraiment sur du vivant et que c'est magique, quoi.
Et effectivement, comme tu le disais, j'ai lu que si les récifs de coraux venaient à disparaître, ce serait environ 30% de la biodiversité des océans qui disparaîtrait avec.
Voilà, ben c'est bien, on se complète. Moi, je retiens pas les chiffres parce que ça me parle pas vraiment. Mais bon, ouais, c'est vrai que c'est super important. Et puis bon, moi, je suis tombée amoureuse du corail, voilà, parce que je vis sous l'eau une grande partie de ma vie et parce que jusqu'à maintenant, le corail c'était une toile de fond pour moi. C'était juste le décor. Et puis le reste, ben, qui n'a pas couru après les tortues en étant en plongeur, en se disant, faut que je veux voir des tortues, je veux voir des requins, je veux voir des dauphins, je veux voir tout ça. Alors j'ai la chance d'avoir plongé dans tous les océans et d'avoir vu tout ça. Et ça m'a aussi donné un coup de renouveau dans ma façon de plonger, parce que maintenant je suis capable de dire à une tortue, pousse-toi de là, je suis en train de photographier du corail, parce qu'elle est en train de manger le corail que je photographie. Donc en fait, ça permet aussi de changer sa vision sous l'eau. Et franchement, même si on n'est jamais blasé, au bout de 30 ans ou 40 ans, 30 ans de plongée, ben ça donne un renouveau, une autre chose à étudier, à regarder, et c'est super quoi. Ça m'empêche pas d'adorer les dauphins, les requins et les tortues, mais je veux dire, voilà, c'est autre chose, c'est une autre façon de plonger finalement. On va être plus attentif à la globalité et à l'habitat, à la façon dont tout se passe. On va voir l'interaction entre les coraux, les poissons. Voilà, c'est magique parce que on vit dans le global de l'océan quand on tient compte du corail. Alors que d'habitude avant, ben on tenait compte simplement d'une espèce qu'on voulait voir, quoi. Donc du coup, moi je suis jamais déçue quand je plonge. À partir du moment où j'ai une branche de corail qui traîne quelque part, je suis jamais déçue. J'ai toujours des choses à voir. Même si j'ai pas croisé la tortue qu'on m'a vendue dans le club de plongée, quoi. Ça, c'est génial.
Donc, il existe Ocean Quest Global, mais toi, c'est la branche Ocean Quest France que tu essaies de développer. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Bah, parce que je suis française, déjà, que j'ai découvert donc Ocean Quest en rencontrant Anwar Abdullah en Malaisie, en Thaïlande. Je me suis formée, j'ai passé des mois avec lui pour me former, et des années même maintenant, parce que ça fait 3-4 ans. Donc, tous les hivers, je passe quelques mois avec lui. Et du coup, en fait, on a eu cette idée de continuer l'aventure ensemble à distance, parce que je peux pas passer ma vie en Asie, parce que ma vie elle est plutôt sur la France. Du coup, il m'a donné comme mission de développer la France. Il m'a dit voilà, puisque toi tu vis en France, c'est le 4e pays mondial au niveau des récifs coralliens, donc développe la France. En France, il y a plein de récifs coralliens, il y a les Antilles, il y a Mayotte, il y a la Réunion, il y a la Polynésie, on est en termes de récifs coralliens, on est un énorme pays. Et du coup, pour lui, c'était aussi une occasion d'avoir quelqu'un qui avait envie de s'investir sur cette partie-là du monde, parce que lui, il peut pas être partout. Et du coup, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Et puis, on s'est pris au jeu. Et puis, voilà, on est là aujourd'hui à essayer de développer Ocean Quest en France, de faire des formations et de sensibiliser un maximum de gens en langue française. Alors, on a eu du boulot parce qu'il a fallu traduire tous les documents en français. Donc ça m'a pris quelques mois, j'ai passé 4-5 mois sur la traduction du PDF de cours, qui fait 120 pages. Même si je parle anglais couramment, je croyais que ça allait être facile, mais non, c'est un métier. Donc voilà, et puis j'ai aussi fait des sous-titrages des vidéos de cours, et donc du coup c'est beaucoup de travail, et on est très fiers de ça, parce que c'est un vrai investissement en fait.
Alors, on entend souvent que la cause principale de la disparition des récifs coralliens, c'est le réchauffement climatique. Si c'est le cas, est-ce que c'est pas vain de reconstruire les récifs ? Est-ce que les récifs que vous reconstruisez vont pas mourir eux aussi ?
On va pas lutter contre le réchauffement climatique. De toute façon, une grande partie des destructions de récifs est due à l'humain. Parce que le réchauffement climatique, ça vient de l'humain, on est d'accord. Donc, comme dit Anouar, le plus gros problème des récifs coralliens, c'est l'homme. Mais bon, l'homme est là, donc on va pas lutter contre de toute façon. Par contre, il y a aussi des causes qui sont totalement naturelles. Un cyclone, un tsunami, des grosses vagues qui vont casser les récifs. De toute façon, oui, on va pas lutter contre le réchauffement climatique, on va pas empêcher les coraux de blanchir à certains endroits. Par contre, on peut aider à reconstituer les stocks de coraux existants avec nos méthodes. Donc, on va pas sauver la planète, mais à notre petite échelle, c'est un peu comme le colibri hein, de Pierre Rabhi, ben voilà, on va prendre un petit brin de corail, on va le replanter, et comme je le dis souvent, si tout le monde plante quelque chose dans sa vie, que ça soit du corail, un arbre, une plante, eh ben c'est bien. C'est déjà une prise de conscience, voilà. Nous, on plante du corail parce qu'on est plongeurs et qu'on aime ça. Après, ben, y en a qui vont planter des arbres dans la montagne. Chacun fait à sa façon et dans ses possibilités. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est de l'espoir. Oui, il y a des catastrophes. L'homme n'est pas forcément le bienvenu partout dans la mer. Mais bon, on y est, donc du coup, autant essayer de faire au mieux.
Alors, j'ai souvent entendu que c'était une catastrophe de casser les coraux, parce qu'ils poussent très très lentement, de l'ordre de quelques centimètres par an. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre des décennies avant de voir les résultats de vos actions, ou est-ce que vous pouvez voir des résultats avant ça ?
Alors, la pousse dépend complètement du type de corail. Il y a des coraux, principalement dans les récifs coralliens tropicaux, qui s'appellent acropora, c'est les coraux en branche qu'on voit un peu partout, qui sont assez fragiles, mais qui poussent très vite. C'est-à-dire qu'un corail cassé, qu'on va recoller et qui va pouvoir... Nous, on les stabilise simplement, c'est-à-dire qu'on va les prendre, on va les stabiliser pour qu'ils aient un support pour repousser. Donc du coup, ce corail, une fois qu'il a la tête hors du sable, il est plus en train d'étouffer dans le sable. Enfin, ce corail, c'est cette colonie, hein, puisque rien qu'une petite branche de 10 cm, il y a des milliers de petits polypes, de petits animaux dedans. Donc on va les stabiliser et on a des acroporas qui poussent de 1 cm par mois. Donc moi, j'ai planté des coraux avec Anouar il y a 2 ans, à Koh-Lanta par exemple, où on a démarré aussi à Koh Phi Phi, une petite nurserie où j'ai des amis qui y sont en ce moment et qui m'ont dit, on a vu la nurserie, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est énorme comme ça a poussé. Ça pousse très bien. Dans de bonnes conditions, ça pousse très bien. Donc après, c'est sûr que si derrière, il y a quelqu'un qui donne un coup de palme ou si il y a une grosse vague qui fait rouler le caillou, enfin le substrat, forcément, le corail, il va pas tenir. Mais voilà, on essaye de stabiliser tout ça, en fait.
Et j'ai lu un article sur Internet qui disait, texto, « La mission d'Ocean Quest, c'est de réparer, mais aussi d'anticiper. Si un ponton doit être construit au-dessus d'un récif corallien, par exemple, alors Ocean Quest va se charger de temporairement déplacer le corail pour pouvoir le réinstaller une fois les travaux finis. » Alors là, je me suis dit, waouh, mais c'est possible ça, de déplacer des récifs de coraux ?
Ouais, alors ça, c'est, je sais pas si c'est sur le site d'Ocean Quest Global, c'est possible, tu l'as vu en anglais sûrement. Alors, on va pas déplacer des récifs de coraux. On n'a pas des bulldozers sous la mer pour déplacer et prendre dessous et dire, allez, on va prendre tout le truc, on va le poser ailleurs. Mais c'est un petit peu, c'est pas tout à fait ça. On va récupérer une partie des coraux. Dans ce cas-là, on va se permettre de récolter une partie des coraux. On essaie de prendre toutes les espèces possibles qui existent sur ce site pour les transplanter à côté, un peu plus loin, les garder vivants et les laisser pousser, pour ensuite, une fois que les travaux sont faits, les ramener sur le récif. Mais une partie du récif sera forcément impactée et abîmée par les travaux. On va pas pouvoir tout prendre. On va essayer de sauver les gènes de tous les types de coraux existants. Donc on va les mettre dans une nurserie à côté, on va les laisser tranquilles, et quand on peut, on les remet en place. J'avoue que c'est pas des actions qu'on fait très souvent. Ça a été fait à Noir, on a fait quelques-unes sur l'Asie, mais c'est pas le principal de nos actions. Mais c'est possible.
Alors, une des choses qui m'a plu lorsque j'ai commencé à me renseigner sur Ocean Quest, c'est le fait que cet asso propose des solutions pour que tout le monde puisse participer, et pas seulement en faisant des appels aux dons. Vous avez mis en place des programmes de formation, et ça m'intéresse beaucoup car j'adore apprendre. Mais bon, me lancer dans un master d'océanographie pour pouvoir sauver l'océan, ça me fait un peu peur. Alors j'ai vu qu'Ocean Quest propose des programmes qui sont accessibles à tous, à la fois pour les plongeurs, pour les moniteurs. Pour les instructeurs de plongée, les programmes de formation sont notamment très intéressants car ils leur permettent d'ajouter une spécialité à leur offre d'enseignement. Au même titre qu'une spécialité épave ou caverne, ils vont pouvoir proposer à leurs clients une spécialité restauration de corail. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Alors effectivement, nous on est dans l'action, c'est-à-dire que on n'est plus en train de tirer des sonnettes d'alarme, à faire des vidéos en disant la planète va mourir, le corail est en train de mourir, patati patata. Ça, il y en a assez qui le font, ils le font très bien. Ça permet aux gens de se rendre compte, de se dire oh mince, le corail est en train de mourir. Mais nous, c'est pas notre mission. Nous, on fait de l'action, c'est-à-dire que le but, on est des jardiniers. Alors bon, c'est pas du végétal, c'est de l'animal, mais bon, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que on va essayer de sauver un maximum de coraux, de les mettre dans des nurseries, de les faire pousser, de les remettre dans le récif. On n'est pas là pour... on est là pour faire de l'action. Et du coup, action égale formation. Puisque le but, c'est d'avoir un maximum de gens qui soient capables de planter des coraux dans le monde. Anouar m'a dit récemment, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a encore dit ça, c'est son leitmotiv. Si un jour, il y a une grosse catastrophe sur la planète qui touche le corail, j'aimerais que partout dans le monde, il y ait des jardiniers du corail qui sachent faire et qui puissent prendre leur petit seau, leur pelle, hein, un petit peu l'idée, et aller replanter les coraux ou redresser les coraux cassés, ou parce qu'on fait pas que de la plantation, on fait aussi de la réhabilitation, c'est un petit peu différent. Et donc du coup, il aimerait, voilà, c'est ça son but ultime, c'est que tout le monde pour la planète, et surtout tous les gens qui vivent en bord de mer, et tous les gens, même les pêcheurs, les gens qui sont en Indonésie, qui sont en Asie, partout, en bord de mer, qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens, eh ben, ils forment des gens, on les forme gratuitement, ces gens-là, parce qu'on aimerait qu'ils soient capables de le faire. C'est vraiment lui sa mission, à haut niveau, quoi, dans sa tête. Après, nous, à notre petit niveau, on fait de la formation de plongeur, puisque, vu qu'on travaille sous l'eau, on fait ça sous l'eau, c'est mieux de savoir un petit peu plonger, mais on peut faire ça en apnée. Des non-plongeurs peuvent nous aider aussi en surface. Donc en fait, tout le monde peut participer. Et ce qui est génial, et c'est pour ça, moi je suis comme toi, j'adore apprendre. Quand j'ai vu que je pouvais apprendre ça, je me suis dit, mais c'est génial. Je suis pas obligée d'aller faire 1 an, 2 ans, 3 ans dans une université pour apprendre ce que c'est un corail. Dans notre système de formation, c'est un système avec des vidéos. Donc il y a 5-6 chapitres, 7 chapitres. Un chapitre sur le corail, un chapitre sur les outils, un chapitre sur comment on fait, un chapitre sur le substrat. Et en fait, c'est super simple. Donc on a une formation théorique qui est tout en vidéo aussi. Donc c'est bien pour les gens parce que c'est cool à faire. Et puis on a une formation pratique. Donc quand on a fini la théorie, on prend nos gants, on prend notre petit matériel et on va planter du corail. Donc on va sauver du corail même. Donc ça c'est génial parce que c'est accessible à tout le monde. Et j'avoue que si j'ai craqué pour Ocean Quest, c'est aussi pour ça, c'est que on n'est pas que des scientifiques. Il y a énormément de scientifiques évidemment dans Ocean Quest. Il y a des gens qui travaillent sur le corail toute l'année. Ils sont en Malaisie, ils sont dans un laboratoire, ils sont au bord de la mer, ils sont dans une île qui est presque uniquement réservée à ça pratiquement. Mais à côté de ça, on a plein de jardiniers, des gens comme toi et moi qui sont capables d'aller donner un coup de main. Et les gens qu'on forme, ils ont la chance, la possibilité aussi de pouvoir aller aider. C'est-à-dire que quand il y a une mission quelque part, ils peuvent y aller. C'est ouvert, c'est justement du vrai volontariat. C'est-à-dire, tu sais planter du corail, on a une mission en ce moment à Maya Bay, par exemple, en Thaïlande. C'est The Beach, c'est quand même l'endroit rêvé où tout le monde rêve d'aller, parce qu'on ne sait jamais si Leonardo DiCaprio y est encore. Avec un peu de chance, on va le croiser. Mais donc, il y a énormément de monde, c'est très abîmé, c'est fermé depuis 2 ans. Et c'est Ocean Quest qui a été missionné par le gouvernement pour réhabiliter. Donc, tous nos volontaires ont l'accès là-bas. Bon, évidemment, ça se fait pas comme ça. C'est pas j'arrive et j'y vais. Mais on a possibilité d'y aller. Et ça, c'est génial parce que on met en pratique ce qu'on a appris. Donc, c'est pas juste de la théorie. C'est vraiment, on peut aller aider. Il y a des endroits en Malaisie, il y a des endroits en Indonésie, au Vietnam, aux Philippines. Et là, on est en train de lancer un projet français aux Antilles.
Alors bien sûr, comme toutes les associations, j'ai vu qu'Ocean Quest propose d'adopter un corail. Rassure-moi, ça veut pas dire qu'on peut acheter un corail sans faire des boucles d'oreilles.
Non, c'est une façon, c'est de l'adoption ou c'est de la... Ouais, c'est-à-dire que ce qu'on propose, comme plusieurs associations d'ailleurs, forcément, on a besoin de financer nos actions. Donc, plutôt que de demander des dons, comme ça, simplement, de donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît, eh ben, on va dire, ben, en échange de votre don, ce qu'on va faire, on va planter un corail pour vous. Le corail, il va être planté à tel endroit, à telle date. Donc, on va envoyer à la personne un certificat d'adoption avec son prénom, avec la photo du corail qu'on aura planté et l'endroit, le point GPS où il se trouve. Alors, faut pas rêver, on va pas pouvoir dire aux gens, on va tous les 6 mois vous envoyer une photo de votre corail parce qu'il est dans un récif, on en plante beaucoup. C'est une action qui va nous aider à un moment donné, mais on va quand même pouvoir envoyer une photo de ce corail-là à la personne en disant, voilà, on a planté ça pour toi. Maintenant, tu as une photo, tu as quelque chose, et ben tu peux dire que tu as sauvé un petit morceau de corail en nous aidant financièrement à planter ce corail. Et pour, on va dire que pour un corail planté, une adoption au prix où on le vend, on va pas en planter qu'un finalement. Hein. On va forcément envoyer une photo à la personne, mais avec cet argent-là, on va pouvoir en planter plus. Donc du coup, c'est on va sauver plus de coraux.
Alors, je me pose une question, parce que tu dis que toi, tu donnes des formations à Toulon, et qu'après la théorie, vous passez à la pratique. Mais j'ai du mal à comprendre sur quoi vous pratiquez. Il y a des coraux à Toulon ?
Alors, il n'y a pas de corail tropical à proprement dit, puisqu'on n'est pas on n'est pas du tout dans les récifs coralliens, mais on a un corail en Méditerranée qui nous permet de montrer aux gens comment faire. Voilà, tout simplement. On va pas refaire des récifs coralliens en Méditerranée, en tout cas, c'est pas notre but pour l'instant, mais on va pouvoir montrer la manipulation aux gens. Et ça, c'est l'essentiel. Après, c'est sûr qu'ils auront fait toucher un petit peu, manipuler un petit peu, planter quelques petits morceaux. Après, c'est sûr que s'ils veulent planter du corail, il faudra qu'ils aillent sur les endroits où il y a des récifs coralliens.
Si jamais on n'a pas beaucoup d'argent ou pas le temps, pas l'envie de se former à la reconstruction du corail, est-ce que tu peux nous rappeler encore une fois quels sont les points sur lesquels on devrait tous faire attention quand on plonge ?
Oui, bah c'est vrai qu'on s'adresse à des plongeurs, donc allons-y. Alors, premièrement, apprendre à être bien au niveau de sa stabilisation, apprendre à palmer. C'est tout bête, parce que bon, nous, on n'a pas de coraux en Méditerranée, spécialement, on va pas en casser toutes les 5 minutes, mais on a des poissons qui font leur nid, on a toujours des choses qu'on risque de déranger sous l'eau. Donc ça, c'est super important. Ensuite, et tout simplement, faire attention à l'eau, on va pas rincer le matériel toutes les 5 minutes. Moi, chez moi, on rince pas le matériel toutes les 5 minutes. On essaye de faire attention, voilà, le matériel qui a pas besoin d'être rincé, il n'est pas rincé. Je vais pas rincer les palmes, je vois pas l'intérêt. On fait attention aux produits qu'on utilise quand on se douche. On coupe l'eau quand on se lave les dents. On fait attention aussi aux crèmes solaires, puisqu'on sait que c'est pas bon pour le corail, mais c'est pas bon non plus le soleil pour les humains, donc il faut arriver à faire un entre-deux. Il y a pas mal d'entreprises qui travaillent là-dessus, et on a rencontré une petite entreprise qui est française, qui est de Biarritz, qui est super, c'est une super entreprise, très sympa, c'est des surfeurs au départ, s'appelle EQ Love, et ils nous soutiennent en nous donnant leur arrondi solidaire, et ben nous, du coup, ben ce qu'on fait, on essaye de dire aux gens, faites attention, on vend pas de crème solaire, hein, c'est pas notre job, on vend rien du tout, mais on leur dit, voilà, si vous cherchez, ben vous pouvez trouver des gens qui font attention à la planète, et essayez au moins on essaye de leur en parler.
Et je voulais ajouter quelque chose aussi, que j'ai vu pas mal pendant que je travaillais sur les bateaux de croisière, c'est que les gens, au final, quand ils font leur valise chez eux, ils pensent pas vraiment à apporter des produits de toilette, donc shampoing, produits à douche naturels, et que une fois sur le bateau, bah, en fait, quand on vit sur un bateau, tout est directement déversé dans la mer.
Ouais, c'est clair. Moi, ça me paraît tellement naturel que même pas j'y pense, parce que je n'ai que des produits comme ça, même chez moi. Donc, de toute façon, j'utilise très peu de produits, d'ailleurs, parce que l'eau, ça suffit pour se laver, hein, un savon, tout simple. Bon, on aime bien avoir des odeurs, donc dès qu'il y a une odeur, ben, il y a un parfum, donc il y a un parfum, c'est de synthèse, forcément. Donc, oui, il faut apprendre à être de plus en plus naturel. Et évidemment, toi, tu l'as vécu sur les bateaux de croisière. J'ai aussi travaillé sur des bateaux de croisière. C'était il y a pas mal de temps, donc on était un petit peu moins attention. Mais maintenant, je suis sûre qu'il y a pas mal de croisiéristes, enfin de bateaux qui mettent à disposition même des gens, quand ils ont un certain niveau de prix, je pense, carrément les produits aussi. Moi, j'ai vu dans des hôtels, par exemple, là, je reviens d'Égypte, je suis allée en janvier, certains hôtels, il y avait des produits bio, respectueux de l'environnement, qui étaient à disposition. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de tout le monde. Voilà, c'est pas que le plongeur, c'est aussi celui qui va l'accueillir, qui doit faire sa part de boulot, quoi.
Alors, je voulais parler un peu cinéma, parce que je trouve que les vidéos, ce sont de super moyens pour faire passer des messages, apprendre de manière divertissante. Et sur le sujet du blanchiment des coraux, il y a le film Chasing Coral de Jeff Orlowski, qui est sorti en 2017 et que j'ai trouvé vraiment très éducatif et très très inspirant. Est-ce que toi, tu as d'autres films ? Alors peut-être que déjà tu as un avis sur ce film-là, mais peut-être que tu as d'autres films à nous conseiller aussi sur le sujet ?
Ouais, c'est un super film. Il a vraiment permis de mettre vraiment en lumière ce qui se passe au niveau des récifs coralliens. C'est un super travail. Il n'y a pas énormément de films, il n'y a pas de films spécialement sur le corail, en tout cas, je ne les connais pas. Chez Ocean Quest, Anouar fait beaucoup de vidéos, il adore ça. Et il en a mis beaucoup sur YouTube. Donc on peut facilement trouver sur YouTube, gratuitement, des vidéos. Je ne connais pas le nom exact de sa chaîne, mais j'ai cherché tout à l'heure. C'est YouTube Ocean Quest Global. Si on tape ça, on va trouver. Il faut taper Global parce que Ocean Quest, c'est un nom qui est pas mal utilisé pour d'autres choses. Mais Ocean Quest Global, on va trouver des vidéos sur les nurseries. Il fait pas mal de petites vidéos de quelques minutes. Il en a mis beaucoup, beaucoup sur YouTube à une époque. Et du coup, voilà, y a pas mal de choses à ce niveau-là.
Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais ajouter avant qu'on termine cette interview ?
Écoute, moi je suis pas trop donneur de leçons, mais pour moi la préservation c'est agir, c'est faire quelque chose, quoi, planter quelque chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, planter un arbre, planter du corail, peu importe, ça permet d'agir et de se rendre compte que on peut à notre échelle, petit bout par petit bout, faire quelque chose. On est des petits colibris et sous l'eau c'est pareil. Donc voilà, si on veut être acteur de quelque chose, eh ben on peut le faire. On n'est pas obligé d'être scientifique, on n'est pas obligé d'avoir fait des études énormes. Chacun peut le faire à son échelle. Et puis s'il y a des gens qui veulent plonger utile, hein, c'est Ocean Quest, c'est Diving with Purpose. Donc toi qui traduis des choses, j'ai jamais trouvé une jolie traduction en français. Plonger pour un but, plonger pour une cause, plonger, voilà. On pourra en reparler parce que c'est vrai que j'ai cherché à le traduire en français pour que ça soit joli et j'ai jamais trouvé quelque chose de joli. Donc du coup nous on a utilisé le hashtag Mission Corail parce que ça parle aux gens. Mais effectivement, Ocean Quest, c'est Diving with Purpose. Et c'est donc plonger pour une bonne cause, pour un but. Et ça, s'il y a des plongeurs qui veulent le faire en France, en tout cas, c'est possible. Voilà, avec nous. Ou ils peuvent le faire aussi en Asie, partout, dans les endroits où il y a Ocean Quest. Il y a beaucoup de Français qui voyagent en Asie et qui sont formés par Ocean Quest Global.
Génial. Eh bien, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup. J'espère que d'autres apprendront également. Merci.
Mais merci à toi, Christelle. C'est vrai que c'est super d'avoir des gens qui s'intéressent à nous. Et puis voilà, quoi, c'est top. Merci beaucoup à toi.
Parole de plongeur, c'est un épisode toutes les deux semaines, le mardi. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ça qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur la page Facebook Parole de plongeur et sur le site internet paroledeplongeur.com. Et si vous avez une histoire à raconter, que votre parcours peut inspirer les autres, ou que vous souhaitez que je consacre un épisode sur un sujet en particulier, contactez-moi par mail à info@paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Brault pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende pour avoir composé la musique que vous entendez. À très bientôt !